Nous vous saluons, comme des membres d'une seule et même humanité, à qui l'Éternel, notre Père, donne la vraie vie, à qui Jésus, l'homme de Nazareth, donne la lumière de sa parole. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue à vous qui êtes venus vous ressourcer. Bienvenue à vous qui mettez un temps vos préoccupations de côté. Nous avons choisi d'inscrire autant que possible la liturgie de ce culte dans la tradition de la Réforme. Ce matin, pour le culte du 13 décembre, je donne ma voix à la liturgie préparée par Jean-Pierre. Olivier nous donnera la prédication. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Cette grâce, la voici proclamée avec le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Je vous invite à louer l'Éternel avec le psaume 59. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, ô Éternel, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Pour nous unir dans la prière de repentance, associons-nous à ces mots du psaume 69. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Et voici ce moment du culte que nous vivons et que nous nommons pardon. Il est plus profondément un chemin de liberté. Il nous est donné d'être en vérité ce que nous sommes, libres devant l'Éternel notre Dieu. Écoutons le prophète Ésaïe. Ainsi parle le Seigneur, n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur Yahvé, ton Dieu, ton Sauveur. Voici maintenant l'offre de vie que Dieu nous propose. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, j'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours. Amen. Avant de lire les Écritures, prions l'Éternel notre Dieu pour que ces paroles humaines soient illuminées et deviennent paroles de vie. Éternel, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple, toi qui as murmuré la sagesse des proverbes et de l'Ecclésiaste, toi qui nous as donné ta parole, en termes humains, dans la bouche de Jésus, l'homme de Nazareth, Éternel, en cette heure, donne lumière à ces paroles humaines. Qu'elles soient pour chacun de nous ta parole. Et la lecture de ce jour se trouve dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 19. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici !» Il reprit « Prends ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens, « Demeurez ici, vous, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit les bûches pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, dit-il, et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches, où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau, mon fils. » Tous deux continuèrent à aller ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria « Abraham ! Abraham !» Il répondit « Me voici !» Il reprit « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur voit ». Aussi dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que le Seigneur est vu. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Ta descendance occupera la porte de ses ennemis. C'est en elle que se béniront toutes les nations de la terre parce que tu as écouté ma voix. » Abraham revint vers les jeunes gens, ils se levèrent et partirent ensemble pour Beersheba. Abraham habita à Beersheba. Et je vous invite à chanter ce psaume du temps de l'Avent d'un arbre séculaire, le 32-16 sur nos rocailles Alléluia. Thank you.
En ces temps de Noël, nous nous abandonnons à des coutumes bien agréables. La célébration de la naissance de Jésus est historiquement alignée sur les fêtes païennes du solstice d'hiver, du sol invictus, le soleil invaincu. Nous savons que ces pratiques datent en majorité de l'époque de l'expansion du christianisme en Europe occidentale et nordique, époque où les missionnaires étaient davantage soucieux de multiplier rapidement les convertis que de respecter le dogme à la lettre. Ainsi, à travers les âges, les images de Dieu, puis celles de son Fils, ont connu de nombreuses variations, de nombreux accommodements. Puisque nous sommes dans l'histoire, je vous propose de faire un voyage dans le passé, de remonter le temps et de revenir aux origines. Commençons par l'époque de l'enracinement du monothéisme. Voyons l'image qu'Abraham peut avoir de Dieu. Comment comprend-il sa parole ? Dans ce fameux texte du pseudo-sacrifice du fils d'Abraham, deux lectures sont possibles. La première interprétation est qu'Abraham se fait l'image d'un Dieu à la fois extérieur à l'homme, tout-puissant, et néanmoins affecté des caractéristiques humaines. Dans cette projection anthropomorphique, ce Dieu terrible, exclusif de son autorité et de sa toute-puissance, cherche pourtant, comme un homme, à se rassurer quant à la réalité de son pouvoir. C'est un Dieu dominateur, capable d'infliger le pire supplice à sa créature, celui du meurtre de son propre fils, fils unique, offert en sacrifice. C'est un Dieu qui ne conçoit le rapport avec sa créature que dans l'esclavage. Ainsi, Abraham, robotisé, se lève de bon matin, selle son âne, prépare le bois du bûcher pour tuer son enfant, totalement soumis à l'image qu'il se fait de Dieu. N'exerçant ni son jugement, ni l'amour pour sa descendance, il se prépare sans sourciller à assassiner son fils unique. Bien entendu, à cette époque, nous sommes encore dans le temps des sacrifices humains. Ainsi, le dieu Baal exige encore et toujours. Ainsi, Iphigénie, la fille d'Agamemnon, sera-t-elle aussi sacrifiée pour que le vent se lève enfin sur la flotte achéenne et qu'elle s'en aille détruire Troie ? Alors ce dieu-là, après avoir exercé sa toute-puissance, après avoir broyé psychologiquement Abraham, satisfait de sa soumission totale, de la soumission totale de sa créature, lève sa terrible sentence. Je cite « Maintenant, je sais que tu crains Dieu ». Et le voici à la limite du dédain qui lui expédie des serviteurs, les anges, pour lui signifier la grâce de son fils. Puis vient la rétribution infantilisante et l'ange promet à Abraham une descendance nombreuse et forte, je cite, « comme le sable au bord de la mer » et que cette descendance ira à la conquête des villes ennemies avec succès. Notons au passage que si ce Dieu-là est puissant, il est néanmoins incapable de sonder le cœur de sa créature autrement que par la torture psychologique. Comme tout homme de pouvoir, il est toujours incertain de la loyauté de ses troupes et subit le besoin impérieux de se rassurer en les manipulant et en les éprouvant. Manifestement, ce Dieu-là est en construction. Il n'est pas abouti. Il est en fait à l'image de l'homme, l'homme qui cherche protection et sécurité dans une relation de pouvoir. Alors bien sûr, il existe une autre lecture de ce texte. Il s'agirait d'une interprétation considérant ce psychodrame comme une mise en scène, un simulacre, dans lequel, dès qu'il entend la parole de Dieu, Abraham sait pertinemment que ce qui lui est demandé est insensé et qu'au dernier moment, Dieu arrêtera son bras par amour. Mais dans ce cas, quelle signification donner à ce simulacre ? Non, décidément, la lecture au premier degré semble être la plus vraisemblable. Nous sommes en présence d'un Dieu plein de lui-même, tout-puissant et immuable, définitivement extérieur à l'homme, un Dieu transcendant. À l'époque, le peuple juif est à la recherche constante de pureté. C'est cette pureté qui le distingue et qui le sépare des autres pour être le peuple choisi par Dieu. Cette exigence de pureté, ainsi que la loi de Moïse qui en découle, deviendra le fondement de son identité culturelle. Et cette obsession de la pureté favorisera le glissement naturel vers une image d'un Dieu parfait, un Dieu non seulement tout-puissant, immuable, figé, comme nous venons de le constater, mais aussi désormais omniscient, sachant tout à l'avance. L'évolution vers la transcendance totale est ainsi achevé. Face à ce Dieu-là, quelle est la place de l'homme? De quelle liberté dispose-t-il? Que ce soit chez Job, dont l'obéissance parfaite à la loi et au rite ne lui apporte aucune protection. Ou bien, plus proche de nous, en plein holocauste nazi, au cœur duquel l'injustice apparente de Dieu règne en maître. Où est Dieu? Quel sens donner à ce Dieu totalement extérieur à l'homme, totalement transcendant? Par ailleurs, combien de crimes ont été commis dans l'histoire au nom d'une telle conception de Dieu? Et combien continuent encore à se perpétrer? Maintenant, je vous propose de continuer notre voyage et d'avancer dans le temps jusqu'à l'époque du prophète Yeshua, Yeshua qui sera finalement reconnu comme Christ. Yeshua fait simple. C'est la pure lumière de Dieu. Aime ton Dieu de toutes tes forces et aime ton prochain plus que toi-même. Son rapport à Dieu est immédiat, évident, naturel. En un mot, c'est un rapport filial et non théologique. Dieu est son Père. Toutefois, cette relation d'exception à Dieu ne nous est hélas pas transposable telle qu'elle. Nous pouvons nous en inspirer, mais comment la vivre de cette manière-là? Car la grande fresque de son enseignement, l'enseignement de Jésus, à l'instar de celle de Socrate, de Zénon pour les stoïciens ou d'Épicure, constitue un cadre moral d'ensemble. Un cadre moral et non un but, car il est humainement inaccessible. Le prophète juif Yeshua annonçait le royaume terrestre d'Israël. Et finalement, Christ nous apporte le royaume intérieur, personnel, que seule la foi révèle. C'est un royaume intime où chacun se détermine face au bien et au mal, face aux ténèbres et à la lumière. Dans les années qui suivent la mort de Jésus, les prêcheurs hellénistes, Étienne et Philippe, puis Paul de Tarse, achèveront la révolution théologique entamée par Christ. Je cite Paul dans sa lettre aux Romains 3:28. Nous estimons que l'homme est justifié par la foi, sans la pratique de la loi. Il s'agit là, bien entendu, de la loi mosaïque, faite d'expériences de pureté, pour satisfaire un Dieu irritable et tout-puissant. Paul, en allant aux nations, en portant la théologie du monothéisme hors d'Israël, Paul abandonne la quête de la pureté comme rapport à Dieu. Il entre dans une relation de foi exclusive. On peut même dire dans une relation exclusive de foi. C'est là le modèle du chrétien souhaité, du chrétien idéal, à défaut d'être celui du chrétien à venir. La parole seule suffit à lui donner la foi. En quelques dizaines d'années après sa mort, la mort de Jésus, la déification du prophète Yeshua en Christ fait basculer la relation de l'homme face à Dieu. Désormais, l'action de Dieu s'effectue dans chaque individu, dans le secret des cœurs. Écoutons ce qu'en dit l'évangile de Luc en citant les paroles de Christ. Je cite 17:20-21. La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer. Et l'on ne dira pas « Voici, il est ici » ou bien « Il est là » car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous avons quitté l'image du Dieu écrasant, transcendant. Désormais, c'est l'homme qui est au cœur de sa relation au divin. La lumière de Dieu modifie radicalement le discernement de l'individu ainsi que sa perception de l'image du Seigneur. À tel point que quelques années plus tard, l'évangile gnostique de Jean fera dire à Christ répondant à Nicodème, je cite 3:3, « en vérité, je te le dis, à moins de naître à nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » À ce stade, la révolution théologique est désormais achevée et Dieu prend toute sa place dans l'homme. En une quarantaine d'années est apparue l'image d'un Dieu d'amour, un Dieu immanent, un Dieu dans l'homme et non plus transcendant et extérieur à l'homme. Mais la marche de l'histoire se poursuit et hélas, Hélas, elle n'avance pas de façon rectiligne. En dépit des enseignements de Yeshua sur le Dieu d'amour, en dépit aussi de la théologie révolutionnaire de Paul, la mise en place du christianisme comme religion d'État dans l'Empire romain sous le règne de Constantin fait à nouveau émerger l'image du Dieu ancien, un Dieu que l'on doit craindre tout autant qu'un Dieu d'amour. Puis, tout au long du Moyen-Âge, l'image de Dieu et notre rapport à lui vont continuer à se figer, et toujours dans le sens du Dieu transcendant de la crainte. Au point même qu'Umberto Eco fera dire par le bibliothécaire de son œuvre « Au nom de la rose », cette chose à la fois logique et terrifiante, je cite, « Le rire tue la peur, et sans la peur, plus besoin de Dieu ». Après les illuminations apportées par Yeshua, par Paul et par tous les premiers penseurs chrétiens, quelle terrible régression! Constatons ainsi que, quelle que soit l'époque, une religion d'État est nécessairement une religion du pouvoir, donc de la contrainte. Elle repose sur la crainte pour mieux tenir les peuples, crainte imposée par État militaire, crainte d'un Dieu tout-puissant, jaloux et vengeur. Dans ce cas, la théologie cesse d'être un instrument de libération. En niant l'amour de Dieu dans l'homme, en rétablissant l'image d'un Dieu transcendant, tout-puissant, elle se contente d'assurer la cohésion du groupe au prix de l'asservissement de chaque individu. Voici, notre voyage touche à son terme. Nous arrivons à l'époque moderne, à celle de la Renaissance et à celle de la Réforme. Depuis le XVIe siècle en Europe, de nombreux penseurs sont confrontés à l'image de Dieu. Spinoza et sa jubilation, Pascal et son pari, Kant et ses impératifs catégoriques, Camus et son absurde, Kierkegaard. La liste est bien trop longue pour en faire le détail ici. Mais chacun, à sa manière, cherchait à dépasser les contradictions théologiques inhérentes au monothéisme, notamment celle de la présence de Dieu au monde. Puis, à l'époque contemporaine, survient le cataclysme de l'Holocauste des Juifs par les nazis, cataclysme dont nous n'avons pas encore mesuré l'immense impact sur la théologie moderne. C'est là que la question de la théodicée a explosé. Rappelons que la théodicée met en lumière la question suivante. Au vu de tous les malheurs du monde, Dieu est-il injuste ou Dieu est-il impuissant? Pour les théologiens modernes, que ce soit chez Job dans l'Ancien Testament, à Auschwitz ou dans les massacres dont l'actualité nous abreuve, la question reste la même. Mais refusant désormais le fatalisme et doutant de l'arbitraire d'un Dieu purement transcendant, ces théologiens considèrent que la question de la théodicée n'appelle pas de réponse. Du moins pas en tant que telle. L'origine de cette incompréhension tragique, qui peut faire définitivement douter de l'existence de Dieu, se trouverait ailleurs. Elle se situerait dans la représentation transcendante que l'homme se fait de Dieu. Ainsi, certains théologiens juifs commencent désormais à aborder l'image de Dieu différemment, à penser un Dieu inactif, en majesté. Pour ces penseurs, Dieu se rétracte pour laisser la place à l'homme. C'est le fameux phénomène du Tzimtzum, dans laquelle la présence de Dieu s'arrête au moment où la liberté de sa créature apparaît. Dieu n'est plus un être tout plein de lui-même, immuable, jamais en défaut. C'est un Dieu en création constante dans son interaction, dans son dialogue avec l'homme. C'est un Dieu en mouvement, qui peut se rétracter, se condenser, pour laisser la place à l'autre, à l'homme. Dans cette optique, permettez-moi d'évoquer certains successeurs du philosophe et théologien Paul Tillich, qui mettent en lumière l'action de Dieu dans l'homme et par l'homme. Dans son ouvrage intitulé « Histoire de Dieu », Karen Armstrong montre à quel point les trois grandes religions du livre, Torah, Bible et Coran, ont été qualifiées d'athéisme lorsqu'elles sont apparues. Je la cite. Presque tous les fidèles se fabriquent des idoles avec leurs termes religieux. Dans leur quête de sécurité, peut-être identifient-ils Dieu et leur concept de Dieu. Quand ce concept est en danger, Dieu, croit-il, l'est aussi. C'est pourquoi aucun concept de Dieu ne peut être plus qu'une construction humaine limitée. Et nos mots personnels pour en parler, il faut bien l'admettre, ne révèle pas Dieu, mais nos propres désirs. Alors, si Dieu n'est plus le Tout-Puissant qui connaît toutes choses par avance, s'il n'est plus hors du temps, si par l'évidement de son être, de son auto-rétractation, il se dépouille de tout pouvoir d'immixtion dans les choses du monde, alors Dieu nous fait le plus merveilleux des cadeaux, celui de la liberté humaine et celui du libre arbitre. Seulement, une fois qu'on a quitté un Dieu transcendant pour un Dieu dans l'homme, pour un Dieu de l'homme et plus encore pour un Dieu par l'homme, alors bien sûr, le risque est grand de le voir disparaître purement et simplement derrière l'homme. Pourtant, il est bien là. Nous le sentons, nous le savons. En relation sensible, profonde avec nous, il agit et réagit à travers l'homme. C'est un processus créatif, dynamique, sans cesse renouvelé, sans cesse en devenir, sans cesse réinventé. Il s'agit juste d'une autre forme de foi. Aussi, je vous propose de terminer ce voyage par ces mots du théologien américain John Shelby Spong, je cite, « Y a-t-il une dimension en profondeur de la vie qui soit finalement spirituelle ? Y a-t-il une profondeur de notre vie et de celle du monde qui nous relie à une présence que nous disons transcendante, qui nous dépasse et qui pourtant ne se distingue pas de ce que nous sommes et de ce qu'est le monde. Y a-t-il une présence au cœur de notre vie qui ne peut être invoquée comme un être, mais qui peut être saisie comme une réalité divine et infinie ? Sœurs, frères, soyons attentifs. Il en est des images de Dieu comme de toutes les idées. Certaines portent la mort en leur sein, comme nous le rappelle cruellement l'actualité. Ne restons pas face à ce que les Chinois appellent le livre du ciel, puisque c'est ainsi qu'ils nomment ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils n'arrivent pas à lire. Regardons la lumière de Dieu, écoutons le chant du divin. Ils ne sont pas dans les livres, ils sont au fond de nos cœurs. Dieu a renoncé à son invulnérabilité. Il s'est déjà donné intégralement au monde. Il a joué sa partie. Il est grand temps que l'homme joue pleinement la sienne et qu'il se donne enfin à Dieu en retour pour le faire vivre. C'est un processus dynamique et coactif. Dieu fait vivre l'homme qui fait vivre Dieu dans le monde. Et vous savez quoi ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas avare de sa lumière. Développons notre discernement. Nous ferons passer l'image de Dieu de la croyance à sa véritable existence. Après ces temps troublés, célébrons ensemble la naissance de l'enfant Jésus et réjouissons-nous du Sol Invictus, le soleil invaincu du solstice d'hiver, qui nous promet le retour de la lumière, de la chaleur et des beaux jours. Amen. Joyeux Noël à tous.
Thank you.
confessons ensemble notre foi. Nous croyons en Dieu. Chaque jour, il crée l'univers à nouveau. Il a mis en nous sa lumière. Elle nous fait grandir et nous rend libres. Par cette création, chaque jour, il donne à l'homme un présent et un avenir. Chaque jour, il donne un sens à notre vie. Chaque jour, il donne à l'être humain et à la terre entière une espérance. Chaque jour, il nous ressuscite. Nous croyons que Jésus le Christ nous donne à entendre sa parole, la parole. Christ est celui que nous écoutons et qui témoigne d'un Dieu d'amour. Nous reconnaissons une assemblée qui unit tous les croyants en Christ. Elle existe par-delà les églises humaines, elle existe par-delà les frontières religieuses. Nous savons que nous devons témoigner et agir. Par la force de l'amour, de son amour, le Seigneur nous guide sur le chemin de la vie. Voici maintenant un temps liturgique pour interroger la rencontre d'Abraham et de Dieu il y a tant de siècles. Un temps pour dire et vivre notre présence en participant à l'offrande. Écoutons Coëlette. Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras. Merci pour votre don, dans notre Église, au nom de Jésus-Christ. Quelques annonces. Un grand merci à Jean-Pierre et Olivier pour ce culte qu'ils nous offrent ce matin. Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise de nos cultes au Temple d'Annecy, à partir du 20 décembre, pour les trois cultes de fête de Noël. Le dimanche 20 à 10h pour le Noël en paroisse, le jeudi 24 à 18h30 pour la veillée, et le vendredi 25 à 10h pour le culte de Noël. Ces trois cultes sont filmés et seront disponibles sur notre site internet. À cause des contraintes sanitaires, l'accès au temple est limité à 50 personnes. Nous réservons donc ces trois cultes pour les personnes seules et celles qui ne pourraient pas visionner la vidéo depuis chez elles. Nous encourageons donc les familles à visionner ces cultes de Noël ensemble à la maison. Le 27 décembre, le dimanche 27, il n'y aura pas de culte ici. Et puis, ils reprendront le 3 janvier au Temple d'Annecy à 10h, toujours avec 50 personnes et bien sûr les consignes sanitaires demandées. Nous avons conscience que cette période est difficile pour vous tous, surtout en ces fêtes de Noël qui approchent et qui vont être bien différentes de d'habitude. Nous vous portons dans nos pensées et dans nos prières, et nous pensons particulièrement à toutes les familles touchées par la maladie et le deuil. Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel, nous plaçons sous ton regard le monde qui nous entoure et que tu nous as confié. Donne à chacun de nous d'agir selon ta parole. Nous avons des yeux, donne-nous de voir. Nous avons des oreilles, donne-nous d'entendre. Nous avons un cœur, donne-nous de comprendre et d'aimer. Donne-nous d'être présents à ceux qui sont près de nous. Donne lucidité et courage à ceux qui sont en responsabilité. Donne l'espérance à ceux qui vivent dans la souffrance et l'oubli. Fais-nous grandir et rappelle-nous chaque jour que nous sommes en charge de la parcelle de lumière que tu as mise en nous. Que ta parole, libre, conduise chacun de nous. Et nous voici unis dans la prière que tu nous as confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons l'envoi avec le prophète Jérémie. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sa lumière. Le Seigneur nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous. Il nous donne sa force. Il nous donne sa paix. Amen.